Bonjour tout le monde. Enfin, commence spectaculaire à 14h03, émission numéro 176. Christophe Roland au micro en ce mercredi 7 novembre 2018. Actualité aujourd'hui avec Pascal Bazin, déjà venu, et oui, rappelez-vous, émission 145. Et puis Laurent Schmitt qui vient aujourd'hui, c'est une première. L'actualité aujourd'hui, c'est le Festival Interférence, 3e édition, qui commence aujourd'hui, mercredi 7 novembre, et se termine le 17, je crois que c'est samedi de la semaine prochaine. Le Festival Interférence, je vous lis une seconde la brochure, accueille pendant 10 jours et dans une pluralité de lieux du cinéma documentaire d'auteurs alliés à des temps d'échange collectifs. Eh bien, c'est Pascal ainsi que Laurent qui vont en parler pendant toute cette émission jusqu'à 15h, comme tous les mercredis d'ailleurs, hein, c'est comme ça que cela fonctionne. Nous allons commencer avec un peu de musique, Radio Elvis, parce que c'est très bien, ça accomplit des rock, et puis le titre s'appelle 23 minutes, il ne dure pas 23 minutes, mais c'est histoire comme ça de lancer ce festival Interférence, festival documentaire, Lyon, Villeurbanne et Lyon, cinéma documentaire et débat public, c'est ce que nous dirons nos invités. Commençons donc en musique. Laissez-moi peut-être le temps de vous indiquer que vous nous écoutez sur radiocanu.org si vous le faites sur internet, ou bien le 102.9 de la bande FM. L'émission est enregistrée, vous pouvez tout à fait la réécouter à loisir, n'importe quand, comme vous le souhaitez.
Perdu, quelques noms sans visage, sinon Et voilà.
On l'aura entendu jusqu'au bout pour démarrer cette émission. Il s'agissait de Radio Elvis, 23 minutes, extrait de l'album Ces garçons-là. C'est la bande-son de l'automne des Inculpables. Enfin, voilà, ça peut faire un habillage sonore, mais vous allez voir que pour la suite de l'émission, Pascal nous réserve des surprises. Donc, émission 176, rappelez-vous auditeurs, l'émission 145 avait déjà été consacrée au Festival Interférence, c'était la deuxième édition à ce moment-là. Cette année, 2018, c'est la troisième édition du 7 au 17 novembre, cinéma documentaire et débat public. Eh bien, Pascal, Laurent, je vous en prie, à vous la parole pour vous présenter peut-être vous-même, ou bien revenir une seconde sur scène publique, ou bien bilan de la session 2017, ou bien même la première 2016, ça s'était bien passé aussi. Je vous en prie, Laurent, Pascal, qui démarre donc ?
Alors là, ça fait plein de trucs en même temps. Alors si on reparle de scène publique, c'est un collectif de citoyens qui s'est constitué il y a 3 ans, qui ambitionne de proposer au travers d'une programmation cinématographique, en l'occurrence du documentaire, de faire dialoguer ce cinéma-là avec le monde de la recherche et la société civile. Donc c'est vraiment la démarche centrale du Festival Interférence, l'idée de fabriquer de la parole, de l'échange, venir enrichir l'ensemble des compétences qui est sur un sujet donné, et comment on fait aussi un pas de côté, une manière de voir autrement des sujets qui des fois sont compliqués et sont souvent imposés par un schéma un peu comme ça dominant qu'il serait intéressant plutôt de penser d'une certaine manière.
De la parole, parce que lors des projections, par exemple l'inaugurale tout à l'heure à 18h30, ça se tiendra à l'Université de Lyon, entrée libre dans le 7e arrondissement, ou bien ce vendredi, je crois avoir noté qu'à la bibliothèque de la rue du 3e arrondissement, de la rue du Guesclin, à 20h30, le temps de l'autre, et bien à chaque fois c'est en présence tout à l'heure de Isabelle Garcin-Maroux ainsi qu'Éric Bouvet, en présence aussi vendredi à la bibliothèque du 3e arrondissement de Christian Laval. La parole est donc suscitée, je partais sur autre chose, la parole est donc suscitée, et la parole est tenue par des intervenants mais aussi le public, il y a des échanges qui peuvent avoir lieu.
Alors c'est vrai que le particularisme de ce festival, c'est de convoquer, d'inviter des personnages du monde de la recherche, donc recherche au pluriel, qui est aussi bien toutes les disciplines de recherche. Alors principalement, c'est les gens qui sont en lien avec les sujets traités dans les films, bien évidemment, des représentants de la société civile aussi, des collectifs, des associations, et les gens de l'image, les cinéastes. Donc l'idée, elle est comment on sort d'une projection où tout le monde a vu dans une salle un film, et comment ce film, il nous a mis au travail tous autant qu'on est, comment il nous a touchés, questionnés, dérangés, et comment nous, effectivement, l'association va arriver à faire dialoguer comme une conversation, ce qui serait le monde idéal. Dans le fond, il manque plus que l'apéro, mais comment on fabrique une conversation où personne domine sur l'autre, mais comment on peut échanger, et que comment on a vécu effectivement ce film et comment ça nous questionne.
Laurent, ces conversations, vous y participerez en tant qu'intervenant, c'est bien ça ?
Alors non, pas en tant qu'intervenant. Moi, je vais adopter la casquette de modérateur. Et en fait, c'est un peu tout le jeu de l'équipe qui organise ce festival Interférence, c'est d'interroger les modalités de la prise de parole et d'essayer de trouver ensemble des manières de faire émerger la parole pas évidente. Par exemple, le citoyen qui aurait quelque chose à dire et puis qui va pas oser prendre la parole en public, ou supposer que sa parole n'est pas légitime parce qu'elle n'est pas renseignée, parce qu'il n'a pas le bagage suffisant pour participer au débat. Mais justement, comment on va trouver d'autres modalités d'être ensemble pour s'assurer que tout le monde peut s'exprimer sur les films qu'on regarde ensemble.
Et je crois que ça fonctionne. J'étais, pour tout avouer, auditeur, j'étais tout à l'heure de passage à la bibliothèque du 3e arrondissement et j'entendais que, d'ailleurs faites attention, allez réserver les places. Je crois que j'ai mis le lien sur le blog, sur la cité doc, réservation minute, il me semble qu'il y a un intitulé comme ça, réserver les places, parce que j'entendais que le temps de l'autre, avec nom de l'intervention de ce vendredi 9 novembre à 20h30, enfin du moins le documentaire projeté sera à l'infini d'Edmond Carrière, un documentaire de 2017 qui dure 72 minutes, donc c'est quoi, une heure et quart. La jauge est à 60 places. Il y a déjà une bonne cinquantaine de réservations faites. Je crois donc que ça marche, hein, Pascal. Les gens viennent. Et la parole, pour les sessions précédentes, 2017 et 2016, Laurent, étiez-vous déjà présent? Ça se passait bien, oui. Les échanges avaient lieu, fonctionnaient. Pas de...
Je pense qu'il y a une attente un peu à tous les niveaux de pouvoir, d'une part, voir du cinéma documentaire, hein, parce que c'est un peu confidentiel quand même, le documentaire, et encore plus de pouvoir discuter avec soit des protagonistes du film, soit des gens du monde de la recherche qui ont avancé sur ces questions-là. Donc il y a une vraie envie de converser, de discuter. Donc c'est l'habitude s'est installée dans cette pratique. Donc après, ce que dit Laurent, c'est comment on invente de nouveaux dispositifs. Alors c'est pas toujours si simple de modifier l'espace physique, hein, mais on pourrait mettre le public sur scène et puis inverser, voilà, les habitudes de place habituellement assignées, et puis de comment on fabrique de la parole beaucoup plus simplifiée et spontanée.
Mais l'idée, elle est un peu propre au spectacle vivant en général. À un moment, est-ce que le public, il est dans une posture anonyme d'observateur critique de ce qui lui est proposé, ou est-ce qu'il va participer à ce qui se passe et le co-construire avec les gens? Il s'agit évidemment de pouvoir discuter des films qu'on regarde avec l'expertise d'un réalisateur, ou d'un expert, en l'occurrence scientifique. Mais c'est peut-être aussi supposé que dans le public, chacun a sa propre expertise de ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'à un moment, la parole, elle est aussi légitime, parce que sur n'importe quel sujet, on a un vécu, un ressenti que d'autres n'ont pas et qui peut venir nourrir n'importe qui à n'importe quel niveau. C'est vraiment l'idée qu'ensemble, on est en capacité de coproduire un savoir commun, et que le rôle de l'expert, là, est-ce qu'il est de prendre la parole pendant une heure et demie pour nous expliquer ce qu'on voit, ou est-ce qu'il est de coordonner les prises de parole des autres pour utiliser son savoir au service du faire dire les gens, faire exprimer les gens plutôt que de dire lui-même. Voilà, c'est un peu tout l'enjeu, c'est de réussir des soirées où la parole, elle est libre et multiple.
Cinéma documentaire et débat public, c'est bien ce que dit la brochure, c'est bien ce que disent également tous les éléments que l'on peut trouver sur la cité du Doc, je crois, c'est ça,
La cité doc.fr.com,
je ne sais plus.
Ou
très bien.
Festival Interférence, voilà, ça marche aussi.
Donc le terme de public est important. Peut-être revenons encore quelques instants sur scène publique, puis après je vous propose, invité, puis également auditeur, de parcourir la programmation, de mettre un coup de projecteur sur certains des rendez-vous, parce qu'on ne pourra peut-être pas tous les indiquer. Je crois qu'il y a 40 documentaires, ça, plus ou moins.
Oui.
Donc scène publique, débat public, enfin vraiment ce terme public est important. Est-ce que au long de l'année, en dehors de ce festival, il y a des occasions de pouvoir participer, enfin du moins de pouvoir, je ne sais pas, voir scène publique ou non? En fait, il y a que du 7 au 17 novembre, ou bien sur d'autres années possibles. Est-ce que, enfin, je veux dire, c'est le rendez-vous principal de scène publique, c'est ça? Enfin, c'est la.
Alors c'est.
Venez auditeur, quoi.
L'association scène publique est une asso en collégiale. Donc elle a déjà une forme originale et qui fait sens avec sa démarche politique, qui est de fabriquer une forme de transversalité, de reconsidérer la question de la gouvernance, des pouvoirs, dans un rapport où aujourd'hui ce sont les... c'est l'instance de tous les adhérents qui délibère et qui prend des décisions. Donc voilà, il n'y a pas de chef des clés, et qui du coup d'emblée va repositionner un peu tout le monde dans du faire, dans de l'action concrète. C'est quand même une structure assez précaire, donc elle nécessite une mobilisation très très forte de ses adhérents. Donc aujourd'hui c'est un peu tous les adhérents qui ont fabriqué intégralement ce festival, qui, au fil de l'année, visionne des films.
Parce que
c'est presque 400 films qui ont été visionnés par le collectif. Donc, ça reste du cinéma documentaire. Donc, ce n'est pas des films de 10 minutes. Hein. C'est au minimum syndical du 52 minutes, voire plus. Et puis, c'est une multiplicité de micro-collectifs sur la métropole qui vont visionner des films et rendre compte à un collectif plus important les choix de qu'est-ce qui nous importe dans cette association de retenir comme film, mais aussi quels sont les sujets qui nous importent de mettre en débat.
Donc l'essentiel de l'activité de scène publique, c'est bien la préparation de l'édition du festival qui a toujours lieu au Début de quoi? Non, c'est pas le début. On est à la mi-automne, c'est ça?
Oui, oui, 7 novembre, c'est un peu le début. Hein. Y a aussi la dimension, effectivement, habituellement sur un festival de cinéma, on va monter sa programmation, on va effectivement développer la communication sur les différents lieux. Voilà. Nous, le particularisme, c'est quand même que ce qu'on a envie de mettre dans l'espace public pendant 10 jours, on va l'expérimenter en amont. Ça veut dire à un moment donné comment des citoyens ont une approche de la lecture de l'image, du cinéma, comment ces mêmes citoyens ont une capacité à problématiser des films documentaires et comment on aborde les enjeux de recherche aujourd'hui au travers de ces films. Donc c'est une école, j'ai envie de dire, un peu citoyenne et qu'on va reproposer dans l'espace public pendant 10 jours aussi.
Vous les avez, Laurent, vus, ces films sur lesquels vous allez intervenir, ou bien vous faites également partie, appartenez-vous à Scène Publique, à cette association?
Alors moi j'ai une histoire avec le film documentaire et avec une partie des personnes présentes dans Scène Publique aujourd'hui sur une histoire passée sur la commune d'Oulin, avec le festival À nous de voir, avec lequel on partage une histoire très très forte sur de presque 20 ans de construction d'espace de parole. Pour revenir un tout petit peu sur ce que disait Pascal, excuse-moi, et pour l'exprimer un tout petit peu différemment, quand ta question était de savoir si l'activité du collectif était à l'année d'organiser ce seul festival, j'ai envie de dire que l'objectif, il est peut-être pas d'organiser le festival, il est qu'il se passe un truc à l'année entre des gens, sur du film documentaire, sur de l'image, et sur la construction du comment on travaille ensemble, comment on échange ensemble, etc., le festival étant un prétexte à faire chaque année un état des lieux de ce qu'on est en capacité de traiter ensemble ces images, etc. Mais personne n'est obsédé à l'idée on est à J-moins de l'événement, si tu veux.
C'est vraiment un aboutissement qu'une manifestation. Enfin,
il ne faut pas que les gens supposent qu'à un moment, il y a quelques personnes qui sont rassemblées pour organiser un événement. Il y a vraiment un espace ouvert auquel les gens peuvent participer. Sur lesquels il y a de la cogite qui s'ouvrira peut-être quand ce sera moins précaire à d'autres espaces, d'autres territoires, d'autres temporalités. Mais j'ose espérer que les gens, quand ils vont participer à ces soirées, ils vont identifier, ils vont toucher du doigt une réalité humaine et sociale et qui sous-tend tout ça, qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large que le seul festival.
Pascal.
Je voulais juste dire que ce qui nous intéresse, c'est d'expérimenter. Donc c'est vraiment ça la dynamique,
le faire.
Expérimenter, qu'est-ce que c'est qu'une collégiale? C'est-à-dire mettre à l'épreuve ce dispositif-là, expérimenter comment on apprend à lire des films ensemble avec une vraie approche critique cinématographique, et ainsi de suite. Donc l'idée, rien n'est abouti, on n'a aucune certitude, si ce n'est qu'il faut faire pour comprendre comment les mécanismes s'installent et fonctionnent.
Vous avez dit à l'instant lire un film, eh bien, expérience radiophonique, nous allons vous proposer, auditeurs, d'entendre un film. Alors disons, entendre, et puis un film, on parle bien d'un documentaire, cela va être assez court, quoique non, moi il me semble que ça dure je crois 49 secondes, 45 secondes. Pascal, pourriez-vous en dire deux mots? Il s'agit donc de ce teaser, de cette bande-annonce, du documentaire que vous avez nommé.
Alors c'est L'Esprit des lieux, donc il y a un film de Stéphane Manchematin et de Serge Steyer.
90 minutes celui-ci, une bonne heure et demie.
Qui est une magnifique immersion le travail d'un personnage qui fait de l'enregistrement sonore de la nature et particulièrement des animaux. Et c'est tout ce travail-là qui est mis à l'image pendant effectivement 91 minutes. Mais pour nous, c'est aussi une manière comment on pourrait dire, parce qu'on habite en ville, donc on est dans une ambiance sonore qui n'est pas les animaux de la nature. Comment on est réinvité à entendre ces sons-là avec un travail sonore magnifique dans ce film, et comment quelque part, certes, on est éloigné de ces univers-là, et comment lui va s'attacher vraiment à nous rendre compte de la complexité de ces sons, mais aussi les sons qui sont dans leurs univers. Voilà, il y a pas de trafic de sons ou de remontage, mais c'est vraiment le son pris la nuit, par exemple.
Je voulais commencer avec vos propos, c'est très bien, mais il faut quand même indiquer les premiers sons. Vous vous rappelez ce que ça va être? Il faut quand même, auditeurs, ne soyez pas trop désarçonnés. Les premiers sons que vous allez entendre...
C'est le personnage qui parle la nuit.
Il marche également dans la neige.
Dans la neige.
Au tout début. Donc les crissements que vous allez entendre, ne réglez pas votre poste. Vous êtes bien sur le 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien vous nous écoutez sur Internet.
Alors, attention, et il part avec sa fille la nuit.
Il va parler ensuite. Tout est dit, donc nous écoutons cet extrait, 14h22, c'est très bien, il nous reste encore beaucoup de temps pour parler de la suite de ce festival qui commence aujourd'hui, mercredi 7 novembre, qui se termine la semaine prochaine le 17. Le nom, Festival Interférence, cinéma documentaire et débat public, Lyon, Villeurbanne et Bron. Eh bien, nous sommes la soirée le samedi 10 novembre, il est 20h, alors peut-être 20h10, 20h15, le temps de mettre les choses en place. Le documentaire commence, expérience, on va voir à quoi ça ressemble. Ne soyez pas trop étonnés, ça ne dure qu'à peine une minute.
Ça m'arrive souvent de faire des rêves où je me retrouve dans une sorte de clairière comme ça, dans la forêt, et puis il y a des animaux qui sont présents mais je les vois pas. Il y a une ambiance sonore là qui monte et j'ai le sentiment dans ce rêve que les animaux sont en train de jouer quelque chose pour moi.
C'était très bref. Alors, nous, auditeurs, avions l'image sous les yeux. Pascal, vous revenez donc une seconde dessus. Ce sera la soirée du samedi 10 novembre. C'était Les Sons du Silence. Non, alors, c'est le nom de la soirée, Les Sons du Silence.
Oui, tout à fait.
Mais le documentaire lui-même s'appelle L'Esprit des Lieux. Documentaire tourné très récemment, une production 2018. Donc, je suppose, tournage 2017, c'est ça, l'année dernière.
C'est que des films d'actualité qui viennent de sortir. C'est L'Esprit des Lieux. C'est dans le cadre de la soirée Les Sons du Silence à la Villa Gilet. Donc c'est un rendez-vous où l'idée, elle est bien évidemment de revenir sur cette dimension du son et de la nature et comment on entretient une relation à ce son-là. Donc c'est vraiment le débat autour de ça avec Bernard Faure qui, lui, est compositeur de musique électroacoustique et qui va nous aider aussi à relire ce film en public.
14h25, c'est très bien. Nous sommes entrés maintenant dans la programmation de ce Festival Interférence du 7 au 17 novembre. Cinéma documentaire et débat public, j'insiste encore une fois, Lyon, Villeurbanne et Bron. Beaucoup de lieux, Université Lumière Lyon 2, Université de Lyon, Bibliothèque de Lyon, Villa Gilet, vous l'avez dit à l'instant Pascal, Cinéma Lumière, Le Périscope, Cinéma Le Zola, ENS de Lyon, Théâtre Astrée, ainsi que l'MJC Mon Plaisir. Pour revenir et pour terminer peut-être sur cette soirée Les Sons du Silence, je vois à la page 14 de cette belle brochure cette année, une belle couleur bleue, je crois que l'année dernière c'était davantage le vert qui dominait. Il est indiqué qu'il y aura une autre projection très courte, une petite pastille, 9 minutes, vers le silence. Forme de documentaire un petit peu, c'est ça? Ou c'est davantage... Qu'est-ce que c'est en fait, Pascal? Qu'est-ce que c'est que ce vers le silence? Le connaissez-vous? Non, vous n'avez pas tout vu, c'est ça? Eh bien non, les 700 qui sont... Est-ce qu'on pourrait peut-être lire les petites lignes qui se trouvent dessous? Vous les avez? Jean-Stéphane Bron accompagne au plus près l'actuel directeur musical de l'Opéra National de Paris, Philippe Jordan, dans les répétitions de la symphonie numéro 9 de Gustave Mahler. Donc ça durera seulement 9 minutes. Donc 91 plus 9, ça fait 100 minutes. Et après, vous savez donc plus ou moins, Laurent, comment cela aura lieu. Il y a donc Bernard Faure qui sera présent, vous l'avez dit Pascal, et un modérateur. Donc ce ne sera pas vous-même ce samedi 10 novembre?
Non, on est très très nombreux et on se répartit intelligemment les tâches. Donc je ne suis pas en charge de cette soirée, j'en accompagne deux autres.
Alors comment pourrait marcher, à défaut de cette soirée peut-être, les soirées que vous allez accompagner, est-ce qu'on pourrait en... Pourriez-vous les présenter un peu, ces deux soirées?
Oui, bien sûr. Alors, simplement pour revenir sur le petit... Non, tu venais de parler... Pardon, excuse-moi, je te tutoie. Non, tu venais de parler du petit 9 minutes. Ça fait partie des modalités d'interroger l'échange. À un moment, présenter un film et puis trouver une lecture qui va venir mettre en parallèle un certain nombre de choses ou un petit court-métrage qui va proposer une respiration dans une discussion pour partir ailleurs, etc. Ça fait partie aussi de toutes ces pratiques qu'on essaie de mettre en place qui vont un peu... briser un peu les interfaces ou les déplacer, les rendre mobiles. Voilà.
Donc ça n'est pas forcément projeté à la suite. Alors ça peut être d'abord le documentaire tout de même qui est le temps fort de la soirée et ensuite...
Simplement pour dire que chaque personne qui a organisé la soirée, les personnes qui ont organisé les soirées ont essayé de donner corps à ces soirées en fonction des sujets, des invités, des opportunités. Ils ont travaillé ces formes pour qu'elles soient parfois surprenantes, parfois très classiques, au service de toujours avec cet objectif de favoriser la prise de parole la plus importante possible.
Pascal, oui.
Non, je voulais juste dire qu'il va y avoir aussi des lectures. Voilà, donc c'est ce qui est central dans la programmation, ça reste le documentaire. Mais effectivement, il y a des... si ça peut se penser comme forme de petite pastille ou de mise en situation par rapport au lieu et sa pratique, par exemple le théâtre Astrée, où sa compétence, elle est effectivement la scène du théâtre et des lectures, comment on peut intégrer des lectures qui seront en lien effectivement avec le thème de la soirée que propose le Festival Interférence.
Typiquement sur la soirée Héros de l'Atome qui se tient donc au théâtre Astrée demain soir à 6h30. On a une soirée qui s'appelle Héros de l'Atome qui va présenter le film À ma mesure de Marie Tavernier, un film qui a pour sujet le nucléaire et au cours duquel la réalisatrice va tirer délicatement et tout en pudeur un fil qui va l'amener dans le monde insoupçonné des travailleurs du nucléaire et de toute une catégorie de personnes que peu de gens connaissent parce que du fait de cette activité un peu particulière, ils sont amenés à être nomades du travail et à passer deux semaines sur un site, trois dans un autre. C'est généralement des gens qui n'ont pas ou peu de famille, qui ont un réseau social assez court. Et elle a rencontré ces gens-là et elle nous propose un film très intéressant parce qu'il vient, par le travail, interroger de manière très spécifique ce sujet très polémique qui est l'industrie nucléaire. Et inversement, le nucléaire est une entrée très intéressante pour venir interroger le monde du travail. Donc on a ces doubles regards. Et bien, au cours de cette soirée, comme le disait Pascal, on va profiter d'être dans le théâtre Astrée pour qu'il y ait une lecture qui va être faite d'un ouvrage qui a été réalisé sur les témoignages des travailleurs du nucléaire. Et il va y avoir une lecture de certains témoignages de personnes qui vont venir aussi participer à la mise en perspective du film.
De Claire Truche, de la 1e compagnie, voilà, qui est installée au Théâtre Astrée.
Laurent, vous serez présent, vous, modérateur sur cette soirée, ou c'est encore d'autres sur lesquels vous serez...
Alors, nous sommes deux à avoir organisé cette soirée. Le modérateur sera M. Sylvère Henriot, qui a travaillé avec la réalisatrice il y a quelques années et qui a vu les débuts de ce film et qui en connaît un petit peu la genèse, donc il était peut-être beaucoup plus approprié que moi pour être en échange, en interface avec elle et le public. Je serai évidemment présent, comme beaucoup de monde d'interférence, et comme un citoyen, comme les Sylvère, comme les Marie, évidemment, oui.
L'horaire, là, je l'ai sous les yeux, je vois indiqué jeudi 8 novembre, 18h18. Il y a un truc.
Oui, je dis 18h30 et je constate 18h18.
C'est un concept, c'est le concept de l'Astrée.
C'est le nucléaire.
C'est toujours 18h18.
Et puis en plus, là, pour le coup, on est en 2018. Alors, je ne sais pas si ce sera...
Ah bah là, ça tombe pile poil, il faut venir.
C'est la triplette.
Et puis, les places sont à réserver, hein, je le disais, auditeur. Et j'entendais tout à l'heure que la bibliothèque du 3e pour la soirée d'après-demain était déjà bien pleine. Et bien réservée donc, réservée. Peut-être, Laurent, une autre soirée nous proposer. Je crois que dans quelques instants, je l'ai trouvé, Pascal. On sera bien en mesure d'écouter... le trailer de 68, Mon père et les clous de Samuel Bigaoui. Vous en direz peut-être quelques mots une fois que Laurent, vous pouvez nous indiquer sur quelle soirée vous serez vraiment présent et modérateur. Vous serez la personne qu'on pourra voir. Voilà, auditeur, vous l'entendez là maintenant.
Il y a une chose qui n'est pas intéressante dans le festival, c'est justement ça. Il y a une deuxième soirée pour laquelle j'ai eu la charge avec d'autres personnes d'organiser un petit peu la relation et l'échange qu'il allait y avoir autour du film.
Oui, parce que quand vous dites organisation, c'est qu'il y a du travail. C'est pas un petit truc qui se fait au petit bonheur avec un peu d'impro. Il y a quand même...
Oui, c'est, bah, bien sûr. Ouais. C'est, on pourrait diffuser un film et donner la parole à quelqu'un. Il n'y a pas beaucoup de job à faire, mais dans la mesure où on essaye de faire que les gens ne s'accaparent pas la parole, qu'elle soit vite partagée, qu'elle soit synthétique, efficace. Voilà, en fait, c'est très très chronophage de rassembler des gens sur un temps très court. Pour résumer tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, comment on optimise ? Une heure et quart ensemble, on peut aussi foutre une heure et quart en l'air en donnant un micro à quelqu'un et en faisant qu'il parle. Et tout ce qu'il va dire, ça va être compris par la moitié de la salle, ça va plaire à 10% des gens et ça va être souvenu une semaine après par 2%, puis on n'en parle plus. Voilà, comment on essaie de faire que cette heure et quart, elle soit autre chose qu'un grand conférentiel qui a tous ses avantages, mais aussi toutes ses limites.
Vous dites une heure et quart parce qu'en tout, la soirée dure un peu plus de 2 heures.
Non, je suppose que les temps de prise de parole sont généralement entre 45 minutes dans le pire des cas où les gens ont du mal à prendre la parole jusqu'à 1h30, 1h45. Au-delà, ça commence à à ne plus à faire sens. Oui. Ou alors il faut sortir de la forme salle diffusion, il faut trouver autre chose. Mais en salle, je trouve que le temps nécessaire pour nous donner à penser les choses et le fait et qu'on puisse rentrer chez soi nourrit quelque chose. C'est des temps qui sont à peu près.
Il faut dépasser la demi-heure, donc une heure et demie de documentaire et ensuite une demi-heure, trois quarts d'heure, de même, ou davantage encore.
Oui, davantage. Oui, davantage oui.
Donc ça peut faire des bonnes soirées. Si à 20h30 vous êtes après-demain, j'insiste encore une fois, à la bibliothèque du 3e arrondissement, 20h30, vous sortirez peut-être pas sur les coups de 21h, 22h, mais davantage, 11h du soir. Mais c'est, au moins, c'est intéressant le terme que vous employez. Nourri. Enfin, voilà, avec de la matière. La matière qui...
Oui, puis on a nourri les autres aussi. Enfin, genre, il faut Si personne prend la... enfin, il faut exprimer, il faut prendre la parole parce qu'on a le droit de le faire et on l'attend.
Quelle soirée donc pourriez-vous...
Alors la deuxième soirée, je m'occupais pas, excuse-moi, la soirée s'appelle Vous avez dit nature. Elle se tiendra à la bibliothèque de la Part-Dieu le mardi 13 novembre à 18h30 ce coup-ci, pas 18h18. Et elle aura pour objectif de nous interroger... nous ensemble autour de la projection du film Semences du futur, qui est un film qui a été réalisé par Honorine Perrineau, que certaines personnes connaissent déjà pas mal puisque ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant qu'elle est sur beaucoup de questions qui ont à voir avec le monde agricole, le monde du travail, l'action militante parfois autour de questions clés de ce monde-là. Et elle nous propose un film qui met en perspective les deux visions antagonistes qu'on a autour de la question des semences. Et elle oppose deux discours, l'un issu du monde paysan qui se bat pour défendre des semences dites paysannes, sélectionnées par des paysans qui, connaissant bien leur territoire, voudraient reprendre en main la question des choix qu'ils peuvent faire, eux, pour les plantes qu'ils poussent, qu'ils cultivent. Et de l'autre côté, un lobby, entre guillemets, semenciers qui forment un cahier des charges beaucoup plus important et d'une responsabilité territoriale beaucoup plus vaste, à vocation à garantir tout un champ des choses au niveau sanitaire, etc. Donc, alors, elle oppose ces deux visions, elle fait témoigner les gens, elle a réussi à se faire ouvrir des lieux assez improbables, notamment tous les laboratoires qui travaillent sur la sélection et l'archivage des plantes. Et c'est du jamais vu dans un documentaire. Moi, j'avais jamais vu.
C'est confidentiel, enfin oui.
Oui, mais elle est scientifique, puis elle est assez crédible. Ah, donc elle s'est vue ouvrir, puis elle a fait un film assez bienveillant. Et en fait, ces deux visions qui s'opposent sont mises en perspective par le discours d'un troisième, un biologiste évolutionniste, monsieur Pierre-Henri Gouillon, qui va nous montrer que, qu'on soit... militant de la cause des semences paysannes ou plus à abonder au sens du lobby européen semencier, quelque soit notre posture, elle relève quand même de représentations de la nature qui sont interrogées dans un cas comme dans l'autre. Et lui vient nous apporter son expertise sur l'évolution pour nous montrer qu'on croit que la nature est une nature nourricière au service du bien de l'homme ou qu'elle soit agressive et contre laquelle il faille se battre, comme c'est dit dans le film. Ces visions sont peut-être un peu interrogées toutes les deux. Voilà.
Si nourrir les quelques 7 milliards et demi d'êtres humains est toujours le maître mot, qu'en est-il des méthodes pour y parvenir au regard des exigences environnementales et des intérêts des consommateurs? C'est le petit texte qui accompagne cette page de la brochure consacrée à ce festival d'interférence. C'est toujours bien, tous ces petits textes, et je me rends compte qu'on n'a même pas commenté, non pas la toute première page qui est le sommaire, en un coup d'œil, mais les pages suivantes qui indiquent des thématiques. Peut-être que nous pourrions les commenter. Alors, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on diffuse d'abord ce petit trailer de 68, Mon père et les clous, pour commenter donc ce que sera ce documentaire de Samuel Bigaoui qui sera projeté? J'ai plus la date sous les yeux. Vous l'avez, vous, Pascal?
À l'amphi culturel de Bron, et précisément, ça va venir le jeudi 15 novembre à 14h. Alors peut-être, pour revenir sur les parcours, l'idée, elle est aussi, ça nous semblait intéressant parce que effectivement, ce qui nous est arrivé comme film, il y a énormément de films dans la programmation qui tirent des fils entre eux. Et on trouvait important de rendre compte au public ces fils. Ça veut dire, à un moment donné, il y a l'intime universel, sans mode d'emploi, le meilleur des mondes, vie suspendue. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on est rentré sur une proposition de film qui nous semblait qu'on avait très envie d'aller voir, on peut se dire, tiens, bah, y a aussi d'autres rendez-vous qui vont faire écho à cette séance-là. Donc c'est vraiment ce principe-là, d'être pas sur un festival où tout est éclaté, mais il y a des liens et on peut suivre des parcours et, qui vont évoluer d'un thème à l'autre, et, mais toujours un peu dans le fil, comme si on pouvait parler de la question de la famille. Il y a la famille XXL, mais il y a aussi la question de l'IVG, et ainsi de suite. Ça veut dire que voilà, ces parcours vont nous inviter aussi à aller dans des lieux différents, passer de l'université à une bibliothèque, et ça nous importe aussi, sur scène publique, cette mobilité des publics. Voilà, qu'ils aillent découvrir des lieux qui, de manière ordinaire, n'y iraient pas.
Intime universel, c'est le parcours en vert qui se trouve à l'intérieur de cette brochure, et c'est le parcours dans lequel se trouve lui-même le 68, Mon père et les clous. L'exercice souvent périlleux de retourner la caméra et de filmer ses proches est un classique du documentaire contemporain. Assumant pleinement leur engagement subjectif, quatre cinéastes d'une même génération s'y risquent avec inventivité. Une rencontre bouleversante de l'intime et de l'universel. Il y aura donc Room for a Man, Ce qui nous reste, Chami et Respondi, ainsi que Mon père et les clous. Il est prêt, il est dans la boîte. On le diffuse, donc Samuel Bigaoui, vous l'avez dit, la soirée du 15 novembre, la semaine prochaine. Vous le connaissez, auditeur, j'aurais pas l'avoué. Moi, je ne l'ai pas vu, ce petit trailer. Il y aura
c'est
un peu
une
tout.
Surprise.
Pour vous aussi, ça va
être
une surprise.
Et on en reparle après.
Bon, et ben alors, voyons cette surprise. Moi, je le parcours une seconde, j'ai l'impression que ce sont des personnes qui parlent. C'est tant mieux, parce que ce qui est un peu gênant, c'était, ben, par exemple, à la fin du précédent, de j'ai déjà mangé son nom.
L'esprit des lieux.
À la fin, ça se terminait avec un peu de musique. Il y avait des images. On voyait, donc vous l'aviez dit pourtant, ça c'était bien. Vous aviez dit qu'on voyait le réalisateur qui s'entretenait avec sa fille. Donc effectivement, voilà, c'était les images. Et il approche une petite bête de son oreille. Et non, il ne se passe rien de dangereux. Donc, enfin voilà, c'était peut-être un peu... ça passe à la radio, puisqu'il y avait de la musique. Mais en termes d'image, il manquait peut-être un peu quelque chose.
Il faudrait faire de l'audio-description.
Périlleux. Petit à petit, production pour 68, Mon père et les clous de Samuel Bigaoui, projeté la semaine prochaine, jeudi.
Au fait, tu devais pas rendre à l'agence de location la camionnette ?
Oui.
Mais là, tu veux combien la camionnette ?
500 euros par mois.
C'est ridicule.
Bien sûr.
C'est tout à fait ridicule, en effet. J'aurais pu en acheter 3 pour ce prix-là.
Non, mais t'es vraiment mauvais en affaires, quoi, en fait.
Oui. Très.
Non, mais c'est un... Enfin, je sais pas, tu réfléchis pas.
Ça me fait rire de le voir toujours derrière un comptoir. C'est un mec qui a fait des études supérieures, qui a essayé de faire la révolution. Personne ne peut deviner que c'est un dangereux subversif qui est derrière la caisse.
Mieux que ça. Oui. Je te donne les clés. Tiens. Salut, tiens, je te montre, voilà, tiens la clé de là,
c'est
la clé de là.
Ça marche
très bien.
Parce que ça a très bien marché autrefois, non ?
Tu pars.
Vous quittez ?
Oui.
Mais qu'est-ce que je vais faire sans vous, moi ?
Ben, il fallait le dire avant, c'est vous qui voulez plus que je sois là.
Hein ?
Yes, it's true.
Non.
Yes.
C'est pratiquement 30 ans que je travaille ici, c'est... Ça fait quelque chose.
T'arrêtes de pleurer parce que là, c'est pas beau. Vous pleurez.
On a des cadeaux de fin de...
C'est où mes cadeaux ? On fait plus 20%.
Ah.
Pourquoi t'as du sucre dans la caisse ?
Le sucre, ça porte chance, non ? Ta mère, elle fait ça tout le temps. Elle met du sucre partout. Elle met du sucre dans ton berceau. C'est la douceur, le sucre. Le magasin, pour moi, c'est un abri. C'est un parfait abri. Je l'avoue.
C'est un abri, un parfait abri, je l'avoue. Il me semble qu'on voit les propos tenus au début de cette bande-annonce. On les voit dans le trailer pour Festival Interférence tout court. Je crois l'avoir... Oui, je l'ai bien déjà mis sur le blog. Il se termine avec des images un peu étonnantes. C'est un jeune garçon qui mâche quelque chose, hein, qui est... perché dans un arbre, et puis il y a un autre garçon qui est, je crois, au sol, qui le regarde comme ça.
Alors c'est un autre film, et je veux bien en parler après.
Bon alors Mange-clou, enfin du moins Mange-clou, 68, Mon père et les clous.
Alors comme on a pu, alors c'est fort sympathique d'écouter une bande-annonce, mais d'en écouter que l'aspect sonore, parce qu'on on prend un petit peu des briques de paroles. Et là, c'est l'immersion dans une quincaillerie en plein centre de Paris, tenue par un personnage qui a fait 68, qui a été un militant important de 68. Et c'est son fils qui, parce que cette quincaillerie va fermer, alors on l'entend aussi, oui. On est en train de lui dire qu'il n'est pas bon en affaires, hein, ça c'est un peu mal fini cette quincaillerie, mais elle a eu ses heures de gloire. Et ce fils qui revient filmer son père pour essayer de comprendre, dans le fond, qu'est-ce que ce personnage a fait comme choix de parcours dans sa vie suite à 68. Hein, et son choix, c'est de fabriquer un lieu tout à fait particulier qui, pour lui, est un lieu de croisement, de vie, d'installation. Il y a des scènes à un moment donné où il se pose la question si la personne qui est là, elle compte pas coucher dans la quincaillerie. Donc on voit bien que...
Un abri, a-t-il dit.
Un abri, ça veut dire que ça peut nous renvoyer aujourd'hui de plein de gens qui ambitionnent de refabriquer des lieux multi-activités où on se croise, où on reste là, on s'installe, on discute. Effectivement, lui, il vend des clous, mais comme occasion, multiples occasions de parler de plein de choses et peut-être de qu'est-ce qu'ils ont envie de faire avec ces clous. Et puis, il y a une très belle approche philosophique de la vie. Et puis, comme ça, on file un peu permanent. C'est toute la dimension politique de faire la révolution et comment on continue à la faire.
Dans quel lieu ce
Alors, c'est à l'Amphi culturel de Bron, campus Porte des Alpes. Voilà, il y a le tram qui dépose pile devant, donc il ne faut pas hésiter à venir.
Laurent, vous confirmiez, ça passait cette bande-annonce, hein, parce que moi je trichais, j'avais les images sous les yeux, mais
Ah, sans... mais le pouvoir du son n'est plus à démontrer, il y a eu beaucoup d'ouvrages écrits là-dessus, et en grand spécialiste que vous êtes, vous savez bien à quel point la radio est un média... Qui
fonctionne, puissant, qui peut donner envie de faire des choses.
Qui est très singulier.
L'avons-nous dit, c'est gratuit. Hein. C'est l'ensemble de ces documentaires projetés, c'est gratuit, mais il faut réserver. Alors, pas tous ce qui est projeté dans des cinémas, mais cette année, je crois qu'il n'y a pas de cinéma, il me semble.
Si. Les cinémas Lumière et le cinéma Le Zola. Donc là, on est dans la billetterie classique des lieux. Voilà, c'est les seuls endroits où c'est payant. Après, nous, ce festival fait un appel à contribution citoyenne et volontaire. Hein. Il y a un site en ligne où les gens ils peuvent donner une participation, alors soit en amont ou après, parce qu'ils se sont dit que c'était une séance formidable et qu'il faut qu'ils nous aident pour que ce festival continue. Donc voilà, c'est aussi une autre manière de participer à la culture, sachant que proposer de l'activité culturelle en milieu universitaire, effectivement, ça ne peut pas être marchand. Et ça peut être que entrée libre et gratuite.
En croisant l'approche sensible du cinéma, la parole citoyenne et l'actualité des chercheurs, nous souhaitons revisiter nos perceptions et notre compréhension du monde. C'était cet extrait, ces quelques lignes que je vous lis à l'instant de l'édito par l'équipe du Festival Interférence. Il nous reste encore un bon gros quart d'heure pour parler d'autres soirées. Est-ce que je cherche une autre bande-annonce ou bien une dimension nous aurait échappé. Nous avons parlé des parcours, nous avons parlé également des lieux, vous l'avez
Alors,
dit.
Alors il peut y avoir, on peut rechercher et avoir la surprise de découvrir peut-être la place de l'homme en film. Alors c'est la page 15 et peut-être qu'il y a une bande-annonce qui va nous surprendre possiblement, qui est le choix de la cinéaste qui était plutôt parti dans l'idée de travailler sur la question de l'IVG et d'aller interroger des femmes dans cette réalité-là. Et finalement, son choix évolue et elle interviewe que des hommes face à ce choix ou non-choix de cette IVG. Et surtout, elle questionne la dimension de la paternité face à des jeunes garçons, on va dire, comment ça les questionne, cette dimension soit de l'IVG, mais aussi possiblement, ils auraient bien aimé avoir des enfants. Alors est-ce qu'on trouve ?
Quand ça vous est arrivé, c'était au bout de combien de temps de relation ?
L'avortement ?
On m'a appelé pour me dire que elle était enceinte.
En fait, je m'attendais à ce qu'elle me parle de rupture, et il arrive ça. Elle m'a envoyé un message par Facebook en me disant « Je suis enceinte, je le sais, j'en suis sûre. Je veux qu'on s'en débarrasse tout de suite parce que je veux pas le dire à ma mère, je le dirai à personne.
Je peux pas te donner les couleurs du ressenti, quoi. Je peux juste t'en donner les mots, mais les couleurs, c'est difficile, tu vois. »
En pratique, c'était inenvisageable complètement que ça arrive un jour. Je savais pas du tout comment gérer la chose, quoi.
J'aurais peut-être pu couper la fin parce que les dernières secondes de cette bande-annonce de La Place de l'Homme de Colline Grandeau, on ne voyait qu'une chaise vide et le nom La Place de l'Homme apparaissait de Colline Grandeau alors qu'auparavant les chaises étaient toujours occupées par différentes personnes qui ne parlaient pas, des personnes qui avaient la bouche fermée. Mais je suppose que la voix que nous entendions, puisque vous l'avez également entendu, auditeur, les propos tenus étaient, je le suppose, par ces jeunes gens. Rude, ces propos, c'est quand même... J'ai appris par ce Facebook, ou bien
alors,
les couleurs du ressenti.
C'est rude, mais c'est les hommes qui l'expriment, mais les femmes pourraient ressentir pourraient dire la même chose, avec qui va se retrouver dans ce débat, hein, qui est le double enjeu, effectivement, de partir de la posture des hommes dans cette scène-là. Mais il y a aussi toute la confidentialité, aujourd'hui, qui est un vrai problème politique, de l'IVG, qui relève plutôt de médecins militants aujourd'hui qui font ça. Et dans le monde qu'on vit, cette question-là, elle est souvent peu discutée, peu débattue. Et que très souvent, c'est l'affaire des femmes parce qu'il y a une vraie absence. Donc voilà, on sera aussi bien sur l'IVG et le droit des femmes aujourd'hui. Et puis... comment on recompose dans ces vies de couple, ou des fois, c'est même pas des vies de couple, hein, ces choix-là, et comment on s'en débrouille.
Et puis une question transgenre aussi autour de ce film, qui est cette espèce de hoquet par rapport à la parentalité, une espèce d'annonce comme ça qui vient mettre un pied dedans et puis qui est ressorti tout de suite, parce que et c'est voilà, cette espèce d'idée qu'on devient parent en deux temps, et un coup, ça ne fonctionne pas, ça sera peut-être après. Il y a quelque chose de très... Cette interdiction de mûrir, il y a voilà, quelque chose de très transgenre aussi qui est très beau là.
Lundi 12 novembre, 20h, à l'ENS de Lyon, l'amphi, plus précisément l'amphi Descartes, c'est dans le 7e arrondissement. Je crois que c'est la station Debourg, il me semblait ça, l'ENS.
Tout à fait.
Oui, donc tout est très bien desservi. Hein. Vous parlez du tram pour l'université Lyon de Habron. Non, mais il faut le dire, hein, parce qu'il y a également un aspect pratique. On n'a peut-être pas trop envie de se déplacer dans des endroits qu'on estime être à Dash.
Merci le Citral, je sais.
Donc très très bien.
On ne va pas faire propagande. Hein,
Vous l'avez quand même dit tout à l'heure, ce sont des lieux où on n'a peut-être pas tendance à aller, mais c'est des lieux qui existent, et puis des lieux qui souvent sont en ville, quoi, qui sont proches, hein, que ce soit l'ENS ou bien les cinémas Lumière, ils sont en plein centre-ville, hein, Bellecour-Terreaux, ou bien Bibliothèque de Lyon, j'évoquais tout à l'heure celle de la rue du Guéclin du 3e arrondissement. Voilà, ce sont des lieux en ville qui existent, qu'il soit question de s'y rendre à pied, à vélo, en bus, en métro, en tram ou n'importe comment. Ça peut être effectivement intéressant de pousser la porte de ces lieux, puis de s'y rendre à des horaires, c'est ce qu'on me signalait tout à l'heure à la bibliothèque, à des horaires un peu différents. La personne à qui je parlais de la bibliothèque du 3e me disait l'horaire sera 20h30. Si on avait placé cette même soirée, enfin ce même temps sur un horaire plus classique, 18h-18h30, on aurait eu moins de monde.
Alors, c'est un peu aussi à l'usage qu'on voit, effectivement, dans les universités... on est plutôt en difficulté de faire de la programmation en soirée parce que ce n'est pas dans le fonctionnement de l'université et que les bibliothèques ne tournent jamais en soirée. Donc là, l'idée, elle est aussi d'installer différemment certaines programmations pour donner aussi envie. Il y a une certaine curiosité hein, des citoyens à aller dans les bancs des amphis d'université. Même il y en a qui disaient l'année dernière, quand on va dans l'amphi, on sait qu'on va un peu travailler. Alors j'ai dit, c'est fort sympathique.
Puis on va apprendre.
On va apprendre, mais ils s'étaient un peu conditionnés, c'était rigolo. Ils n'avaient jamais mis les pieds dans une université. Donc voilà, ça participe aussi de ça. Je voulais juste faire une petite pirouette. Quand on parlait de la place de l'homme, c'est aussi dans le parcours. On va retrouver tout un autre rendez-vous qui s'appelle Identité plurielle et qui est autour... je voulais parler de la famille. C'est la famille XXL.
Est-ce que vous, Laurent, vous souhaiterez parler peut-être de la programmation finale du samedi 17 qui sera consacrée à la séance jeune public? Non, c'est pas trop. Pascal, vous souhaitiez dire oui, un rendez-vous
dans... Non, mais voilà, ce qui fait sens avec le film de tout à l'heure qui est la famille XXL. Et qui va poser effectivement toute la question qui a fait beaucoup parler du mariage dans l'espace public, puisqu'il y a eu des manifestations mariage homosexuel. Et là, on va revisiter en Belgique la question des enfants de couples homosexuels et qu'est-ce qu'ils ont à dire de leur vie, de leur existence, et qui sont même, ils s'interrogent sur comment en France on a pu les juger comme une mise en grande difficulté de leur propre existence. Et
c'est tout un visage découvert, parce que moi j'ai été un peu étonné par cette bande-annonce qu'on voyait pour sur la place de l'homme. C'était un visage découvert. Enfin, je sais pas, il peut y avoir éventuellement un aspect un peu gênant, mais non, c'est les Belges ont accepté ce...
Bah moi je pense que certains ont dû refuser. Voilà, mais ça veut dire que c'est aussi le travail de cinéaste de prendre du temps, de donner confiance, de s'installer avec les gens, et peut-être qu'au final il y en a qui ont accepté d'être à l'image, et peut-être qu'il y en a qui se sont qui ont refusé, mais au résultat on a une vraie proposition d'interview.
Festival Interférence, festival, l'autre grand festival, enfin l'autre festival français dont on parle parfois, qui n'est pas du tout à la même période, ce n'est pas en novembre, je crois que c'est au mois de mai. Festival qui se trouve dans une commune de la Riviera, je ne sais plus comment on appelle ça, vers Nice. Ah oui, je crois que c'est Cannes, il y a un festival avec une compétition. Laurent, peut-être quelques mots sur la il y a une compétition également dans ce festival avec une soirée de clôture, remise des prix. Il y aura auparavant, je crois que ça commence le jeudi, c'est ça il me semble, la compétition L'Image pour parler des sciences. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots ou non? Pas forcément. C'est
Oui, du processus un petit peu de concours.
Je me dis, on termine, voilà l'émission.
L'idée de la remise du prix, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, de faire un état des lieux d'une réflexion. Une remise de prix, c'est pas un meilleur film, c'est pas deux films meilleurs qu'un autre, c'est tout un processus humain de choix qui vont d'avoir collectivement regardé 400 films pour en choisir une centaine qui vont être rediscutés, pour lesquels on va convoquer des expertises, pour en sortir une vingtaine, qui vont être proposées à la société civile d'une certaine manière, pour en sortir trois. Et au final, une sélection qui vaut ce qu'elle vaut, qui est très subjective, qui ne relate absolument pas d'une qualité absolue des films, mais bien d'une volonté à un moment de pointer du doigt certaines choses, et comme une proposition ouverte à... Voilà,
Alors, cette année, il y a deux compétitions qui se sont mises en place. Il y en a un traditionnellement autour du meilleur film documentaire de création. Et on a ouvert une compétition autour de l'image pour parler de science, pour aussi faire place à une production de plus en plus confidentielle qui va aborder des sujets de science dure. Et qu'aujourd'hui, il y a énormément de débats qui sont importants sur ces questions-là, et il n'y a que très peu de films documentaires. Donc voilà, c'était aussi pour dynamiser ça qu'on a organisé cette deuxième compétition.
Où voir ces films en dehors du Festival Interférence? Moi, en fait, c'est une question presque biaisée. J'attends que vous me répondiez, non, on ne peut pas les voir autrement. Il faut aller au Festival Interférence pour voir tous ces films documentaires. La télévision peut-être, Arte éventuellement?
Certains, mais le problème, c'est que le cinéma documentaire reste confidentiel. Soit on va en retrouver sur d'autres festivals de documentaires, mais c'est vrai qu'on a, on a peu l'occasion de les voir. Donc, il faut venir.
Aujourd'hui, tu fais un film, tu ne sais pas s'il va être diffusé. Tu peux passer un an et demi, deux ans d'écriture, de réalisation. Tu ne sais pas si le film va être diffusé, comment il va être diffusé. Et il y a de très nombreux films qui n'ont pour espace de diffusion que les festivals. Alors après, aujourd'hui, Internet est un outil très intéressant. Mais quand je parle de diffusion, pour qui expérimente le visionnage collectif et le vivre ensemble, la temporalité, l'expérience spatio-temporelle qui est la vision cinématographique, on est d'accord que ces films-là ont malheureusement des opportunités d'être diffusés beaucoup trop limité. Il faudrait que des festivals comme ça, il y en ait 15 dans chaque ville de France.
Auditeur, je pense qu'on l'a tout dit, on a bien indiqué, hein, il me semble, on l'a fait tout à l'heure, Pascal, il y a des réservations, j'étais en ligne tout à l'heure sur le site, c'est la cité doc, Reza, minute, je crois, il me semble, il y avait le terme minute qui
apparaissait. Autrement, on va sur le site du Festival Interférence, là, on reclique sur Festival Interférence, et dans la barre de,
oui, de ça, vos places,
il y a réservation. Donc on clique là, on arrive sur toutes les séances. Alors il ne faut pas se laisser intimider par le fait que le site était un peu contraint. C'est écrit place payante, mais c'est gratuit. Donc il faut y aller, renseigner son nom et son adresse mail pour après avoir confirmation de sa place.
Il faut y aller, ça marche, il y aura une 4e édition, une 5e,
ça marche.
10e, la chose est pérennisée, enfin disons...
Déjà on toujours. En fait un et puis on projette bien évidemment l'année prochaine.
Alors vous avez tout à fait raison, avant de se projeter en 2019, auditeurs, profitez-en, ça commence aujourd'hui, le 7 novembre, ça se termine le 17, c'est bien samedi, c'est ça,
je me trompe. C'est un samedi.
Samedi 17.
Ce soir à l'Université de Lyon, ouverture. Avec effectivement un petit temps un peu officiel, mais également une magnifique soirée. Qui s'appelle Journal d'un reporter et qui va nous interroger sur que reste-t-il quand on a fait, effectivement, on a rendu tout son tournage et ses interviews à la presse, qu'est-ce qui nous reste à l'esprit ou qu'est-ce qui nous reste dans notre caméra qu'on ne va pas pouvoir rendre compte. Et ce film va venir collecter toutes ces images et dire autrement qu'est-ce que c'est qu'être journaliste reporter aujourd'hui sur des scènes de guerre.
Non, auditeur, on n'a pas tout dit, c'est évident, mais on ne pourrait pas tout dire, je crois. Il y a trop de propos à tenir, etc. Bref, allez voir ce festival. Vous trouverez des renseignements vous trouverez tous ces renseignements sur le blog. Vous les trouverez également. Il y a des brochures qui sont accessibles un peu partout, je crois. Très bien, petit format qui se feuillette magnifiquement. Enfin, c'est splendide. Les renseignements sont également à trouver sur Internet, la cité doc. Là, je crois qu'on n'a peut-être pas tout dit, mais on a quand même dit beaucoup. Tout commence tout à l'heure. Il y a donc également encore demain, après-demain, jusqu'à samedi prochain. C'était une sorte de petite plaisanterie que je vous lançais, Laurent. Il y a également c'est pas une soirée, c'est une séance jeune public. C'est plutôt le goûter le samedi 17 novembre à 16h. Tout ça pour dire qu'il y en a pour tous les âges. Voilà, il y en a pour les enfants, pour les grands, pour les moins grands, les plus grands, les trop grands. Bref, on va écouter les Orcuptis pour terminer. On va écouter Terre Noire, la nuit des parachutes. J'aime bien le refrain, vas-y saute. C'est le refrain qui va revenir plusieurs fois. Allez, sautons tous. Certes, en parachute, mais sautons un petit pas dans l'inconnu. Mais dans l'inconnu avec, vous l'avez bien dit Laurent, je crois, avec des spécialistes souvent, ou disons des personnes qui ont un regard et qui peuvent faire tenir des propos aux personnes du public qui viendront, ou bien aux modérateurs, ou bien à n'importe qui le souhaitera. Je ne sais pas ce que je dis, n'importe quoi. Écoutons Terre Noire. Merci beaucoup Laurent. Merci beaucoup Pascal.
Merci.
On se retrouve, rendez-vous pris. Le mercredi sera le quoi? Ce sera le 8 novembre peut-être 2019. Mais bon, vous l'avez tout à fait dit. Avant ça, il y a cette 3e édition d'Interférence. 14h59, le Blues des Canuts est en train de se préparer. Écoutons les Inoccupiés, puis restons-en là. Programme à venir ensuite pour Radio Canut. Blues, je l'ai annoncé à 15h. Mayday à 18h et non plus Méga Combi. 19h Canut Info. Et puis sinon, il y a les bandes continues entre tout ça. Merci beaucoup Pascal. Merci également Laurent. À une fois prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Bon festival à vous. Au revoir.
Ça fait des trous d'air. La vie t'offre des shots, des nuits en parachute, des danses au dos de papillons chimiques. La rue dresse des chutes, elle te dit vas-y saute vers la terre. tu te libères, Berlin te tambourine, perdasse sur les paupières, Olin. Ça y est, ça vient de grâce, la vie s'efface, enfin la porte délaisse. Aride, terre de l'extase, laisse sur ton visage des bons cœurs, des cratères, des amours à la mer, chevauchés par la pâche, et ce flash d'elle qui se déhanche. La vie t'offre des shots, des nuits en parachute, des danses au dos de papillons chimiques, la rue dresse des chutes, elle te dit vas-y saute, vers la terre où elle ne sera plus là. Vas-y saute, vas-y saute, vas-y saute, dans la nuit des parachutes, vas-y saute.